Bonsoir à tous, chers amis du Blabla Mix ce soir. Je ne sais pas comment c'est chez vous, chers amis de Évreux, chers amis de Grammont, chers amis du sud de l'Eure, mais ici on a la tête dans les nuages depuis ce matin. C'est le brouillard qui nous accompagne aussi sûrement que le Blabla Mix et qui nous quittera certainement pas aussi abruptement que ce générique. Je vous prie de m'excuser, c'est un début de semaine, on chauffe tranquillement, voilà. Nous sommes en très bonne compagnie, comme pour chaque Blabla Mix, bien sûr, parce que nous sommes avec monsieur Ousmane Diop, qui est aujourd'hui, qui nous ramène une petite parole d'habitant, et puis également un petit coup de gueule à pousser, monsieur Ousmane Diop.
Effectivement, je parle de parole d'habitant, donc on va parler de l'association APR, avec, on a été reçu par Adeline et aussi tous les membres de cette association. Et un petit coup de gueule pour monsieur le ministre de l'Intérieur, réguler, c'est toujours mieux que de casser, voilà.
On en reparle tout à l'heure avec plaisir. Nous sommes également avec notre stagiaire Youssef qui fait, si je ne m'abuse, son baptême du feu ce soir.
Salut,
bonsoir Youssef.
Salut, ça va.
Ça va Youssef, très tranquillement bien. Qu'est-ce que tu nous as préparé Youssef?
Bah, j'ai préparé une petite actualité rap français, c'est tout.
Super, très bien, on aime ça. Puis nous sommes également avec ces messieurs de la Yule Company que je vais peut-être se laisser se présenter eux-mêmes puisque je ne connais pas leur prénom. Bonsoir messieurs.
Bonsoir, moi c'est Kevin Emmerich et je suis administrateur de la Yule.
Ouais, moi c'est Monsieur Dial Ibrahim, bénévole de la Yule.
Alors qu'est-ce que vous venez nous présenter ce soir, monsieur?
Un petit peu toute l'actualité de la compagnie, donc les spectacles à venir, les projets qu'on a sur le quartier Grammont, le festival de mars prochain, etc.
Super, bah ça va être riche, on a hâte d'entendre ça, ce sera en deuxième partie d'émission à partir de 17h30, chers auditeurs. Et puis en attendant, bon, bien sûr, Youssef vous l'a dit, on va retrouver de l'agenda, on va retrouver bien sûr les haïkus de l'école Clément Marot, ça continue encore un petit peu, les haïkus sur l'automne, même si l'hiver avance de plus en plus, on s'en rend de plus en plus compte, y compris dans le quartier. On va retrouver, donc je vous l'ai dit, le parole d'habitant d'Ousmane, sa petite chronique, et puis donc ensuite nos invités, et puis tout un tas de musique, en commençant par le Buena Vista Social Club avec Chan Chan sur le mix des cultures.
Llego a puerto, voy para Mayarí. llevo a puesto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Matané, llevo a puesto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Matané, llevo a puesto voy para Mayarí.
De 17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
Et je ne sais si c'est de l'actu, mais parlons un petit peu télé, une fois n'est pas coutume. Le Buena Vista Social Club m'a rappelé ça. Mais en ce moment, il y a un cycle Cuba sur la révolution cubaine sur la chaîne Arte. Ne sous-estimez pas cette petite chaîne de la collaboration franco-allemande, puisqu'elle produit des choses bien intéressantes que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur YouTube si vous êtes plutôt de la génération des jeunes qui ne regardent plus la télé. Donc pas comme Ousmane et moi, par exemple. Youssef, par exemple, toi, peut-être que tu fais partie de cette génération de jeunes qui ne regardent plus la télé. En tout cas, tu vas regarder de l'actu pour nous faire l'agenda, mon cher Youssef.
C'est la petite actu du jour du rap français. La polémique, c'est la polémique du nouveau clip de Maître Gims. Alors le 28 novembre 2019, le grand chanteur aux millions d'albums vendus, Maître Gims, a sorti un nouveau clip dans lequel il explique qu'il a vendu son âme au diable pour la gloire et le succès. Alors que, enfin, je donne mon avis personnel, je pense que il fait ça pour jouer avec ça, en fait, pour dire, parce qu'il a subi beaucoup de critiques à propos de ça, et je pense qu'il fait ça pour faire douter les gens. Après, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, on est dans le doute. En tout cas, c'était la petite actualité, voilà.
Oui, c'est plutôt une métaphore, il n'a pas réellement pratiqué un rituel satanique, Gims.
On ne sait pas, c'est la question. En tout cas, dans le clip, il a bien montré que c'est le cas. Mais...
Bon, bah écoutez, j'imagine que chacun occupe ses samedis soirs comme il le veut, en l'occurrence. Bon, moi, dans un registre un peu moins satanique, et pour une fois n'est pas coutume, un peu plus chrétien, encore que c'est une association qui, certes fondée par un prêtre, se veut laïque, et bien parlons un petit peu d'Emmaüs, qui organise son merveilleux village de Noël. Ça a déjà commencé, ça continue jusqu'au 2 février, alors qu'est-ce que c'est? Bien, c'est au centre Abbé Pierre Emmaüs, donc, qui inaugure une exposition sur les mythes et récits de fin d'année dans la culture populaire européenne. Alors comment ça se présente? Eh bien, comme on peut le voir par exemple sur le parvis de l'église, le parvis de la cathédrale, des petits chalets en bois. Alors il n'y aura pas de sonnerie de téléphone, encore qu'on ne sait pas. Cette sonnerie de téléphone m'évoque moi-même un petit peu les fêtes de Noël, ce sont des choses qui arrivent. Donc je disais, organisé comme un petit village de Noël avec des petits chalets décorés, illuminés, donc avec des petits décors qui évoquent un petit peu le folklore européen, des lutins, le Père Noël, Saint-Nicolas, les rois mages, les crèches, tout ça. Et donc ça va également permettre de retracer un événement fondateur d'Emmaüs que j'ai découvert en préparant cette chronique, c'est la rencontre entre l'abbé Pierre et un ex-bagnard qui était désespéré, limite suicidaire, qui vient le voir et à qui l'abbé Pierre dit: je n'ai rien à te donner, par contre tu peux m'aider à aider les gens. Et ensemble ils ont commencé le compagnonnage d'Emmaüs et ils ont commencé à aider les pauvres. Et en l'occurrence, vous allez aider les pauvres si vous allez voir cette belle exposition, puisque la visite du lieu est payante, c'est entre 6 et 2 euros. Et c'est ouvert tous les jours de l'année de 10h à 18h, tous les jours de l'année jusqu'au 2 février, donc pas tous les jours de l'année en fait. C'est pas toujours facile. Le mardi, c'est le vrai lundi en fait. De 10h à 18h donc, sauf évidemment les 24 et 25 décembre et le 31 décembre et le 1er janvier, parce qu'une fois de temps en temps, il faut quand même faire un peu la fête. C'est donc au centre Abbé Pierre Emmaüs, route d'Emmaüs 76 690 Esteville. Moi, je vous mets même le code postal, comme ça, si vous avez envie d'écrire une petite carte postale, eh bien, vous pouvez le faire. Voilà, jusqu'au 2 février. Donc. Et puis également, ça, c'est à Rouen, c'est un peu plus trivial, mais bon, on peut s'amuser aussi une fois de temps en temps. La grande parade de Noël, alors, c'est organisé par l'Office du commerce de l'artisanat de Rouen, l'OCAR, qui est actuellement en train de sacrément flipper, puisqu'entre les gilets jaunes et Lubrizol, ça ne va pas fort pour les commerces rouennais. Et donc, ils organisent pour contrecarrer ça une grande parade de Noël. Ce sera ce dimanche à 16h30. 10 chars décorés et parfumés, ça, c'est à ne pas louper. C'est une première, en tout cas, moi j'ai jamais vu ça, avec 158 danseurs déguisés pour l'occasion sur des thèmes un peu de Noël, des lutins, des Pères Noël, tout ça. Ça partira du pont Corneille et ça va se promener dans toute la ville jusqu'au cours Clémenceau. Donc ça, voilà, ça peut être sympathique. En plus, c'est gratuit, donc pourquoi pas aller voir ça. Par contre, prenez un bonnet parce qu'il fait froid. Voilà, je vous propose sur ces belles paroles qu'on s'écoute les haïkus de nos amis de l'école Clément Marot, c'est toujours les CE2. Et cette fois, aujourd'hui, c'est Kyria et Endai donc, qui vous ont préparé ça.
Ta sur la belle nuit noire, chemin de feuilles marron, citrouilles éclairées.
Projet Poésie, réalisé dans le cadre d'un jumelage avec les élèves de l'école Marot et la compagnie Saëla, Nicolas Lelièvre, Grégoire Landais et Céline Gouel.
Ça évoque finalement ce soir bien plus Halloween que Noël, mais bon, finalement, Halloween, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et puis c'est une époque qu'on aime bien aussi. Je crois d'ailleurs que vendredi dernier, c'était Thanksgiving, donc pour nos amis américains qui nous écoutent éventuellement, eh bien, j'espère que vous avez bien mangé. Youssef, tu voulais dire quelque chose ?
Non, j'ai dit hello.
Ah, hello à tous et à tous et à toutes. Bon, en tout cas, ils ne parlent pas anglais, mais ils ont quand même des choses intéressantes à dire. C'est nos amis de la Parole d'Habitant avec Ousmane. Qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui ?
Donc, Parole d'Habitant, donc, comme d'habitude, les micros de la radio HTR rencontrent tout le monde et donnent la parole aux habitants et aussi aux usagers des hauts. Donc, nous avons été reçus par Adeline qui travaille pour l'association APR. Donc, elle nous parlait des jeunes qui fréquentent l'association APR et leurs inquiétudes. Écoutons Adeline.
Ce qui est bien avec les jeunes, c'est qu'il y a la langue qui est utile. Et en fait, l'année dernière, on a fait ça, c'était cool et tout, machin, viens. Nous, c'est comme ça qu'on est passé de 2 à 12, en fait. Moi, j'ai été chercher aucun jeune. J'ai pas été dans le quartier chercher des jeunes, en fait. J'en avais 2. Voilà, c'est bien, ça se passe bien et tout, c'est sympa. Ils ont appelé leurs copains, leurs copines, vas-y, viens faire les devoirs avec nous. Au début, ils avaient, Adeline, est-ce que ma copine, elle peut venir? On a un devoir à faire en commun. Il n'y a pas de problème, même elle n'est pas inscrite, c'est pas grave. Laisse-la venir faire votre devoir en commun, c'est profitable pour toi, c'est profitable pour elle. C'est ça qui est bien avec les jeunes, ils ne sont pas comme nous. Ils parlent entre eux. Ça parle, tu vois, et c'est ça qui peut faire changer la mentalité, c'est les jeunes. C'est pas les vieux, parce que les jeunes, ils parlent entre eux. Et...
ils sont pas aussi limités que les adultes qui sont
c'est
des
ça,
ouais. Ouais, c'est ça, bah ouais, bah parce que les adultes aussi, c'est les jeunes qui font changer les mentalités. Après le CM2, on les lâche. Nous tous, hein, tous, je parle en général, hein. On les lâche en fait, après ils se débrouillent.
Justement, la maison du projet, c'est peut-être le lieu pour vraiment aller là-bas et imaginer des projets adaptés à ce type de population.
À cette transition, ouais, pourquoi pas. Moi, je suis toujours en recherche par rapport à cette idée-là, par rapport à mes ados. Et... alors, moi, j'ai une licence en sciences de l'éduc. Jusqu'à ma licence, je ne savais pas où j'allais. Hein. Je faisais des études parce que voilà, j'avais une facilité, donc je continuais. Pour faire quoi dans ma vie, je ne savais pas. Bah ouais. Je savais que je voulais être avec les gamins, c'est pour ça que j'ai fait sciences de l'éduc, mais exactement quoi ? En asso, pas en asso, tu vois, en mairie, pas en mairie, même encore aujourd'hui, je crois que je vais là où le vent me mène, tu vois. Mais moi, je les comprends. Comment tu veux savoir à 15 ans ce que tu feras après ? S'il n'y a pas quelqu'un qui te dit ça, c'est possible.
Je t'écoute, j'imagine tout un tas de projets avec la maison du projet, parce que c'est pour ça que je suis là. Je me dis, il faudra peut-être créer plein de trucs où, à 15 ans, au lieu de dire choisis, on dit, va expérimenter.
Ouais. C'est ça.
On va faire 3 semaines là-bas, et tu les fais les 3 semaines. On s'en fout que t'aimes pas, on veut que tu découvres. Après, tu viens, tu fais un bilan. Est-ce que j'aime ? Est-ce que ça correspond ? Ça correspond pas ? Au lieu de dire, sois fixe tout de suite, 15 ans.
Parce que le problème, c'est ça. À chaque fois, c'est comme si on proposait aux jeunes à choisir un chemin, mais on leur dit pas, on leur demande pas vers où il veut que ça mène ce chemin, au final.
Et t'as même des fois des jeunes où on choisit pour eux.
Ah mais oui, totalement.
Lui, et c'est... ça c'est, le, c'est un peu l'école, tu vois.
Ah
c'est,
mais totalement, je suis d'accord.
La chronique Parole d'Habitant, la chronique la plus caféinée du PAF, mon cher ami Ousmane, qui se fait toujours payer des petits cafés. Emmène-moi un de ces quatre, Ousmane, emmène-moi. Bon, alors maintenant, voici venue l'heure de votre chronique un peu moins caféinée. C'est la chronique Emploi et Formation. Aujourd'hui, donc, mon regard s'est posé sur un concours Devenez journaliste d'un jour, concours qui pourrait intéresser certains de nos stagiaires et de nos ex-stagiaires, soit dit en passant. Alors, c'est un concours qui va consister à présenter un projet de reportage par équipe maximum de 6 personnes. Et vous serez ensuite encadré par un journaliste pour la réalisation de ce reportage, sous réserve que vous soyez bien sûr reçu pour le concours. Alors, comment faire pour candidater ? Vous avez jusqu'au 17 décembre à 23h59, pas une minute de plus bien sûr, sur le site du Club de la Presse que vous pouvez retrouver sur le site du CRIJ. Alors le site du Club de la Presse, je vous le donne très rapidement des fois que vous ayez envie de noter, c'est pressecomnormandie.fr www.radiolibre.fr. Donc, comment ça se passe? Eh bien, vous devez présenter un sujet de reportage avec comme thème une vocation, c'est du boulot, et qui est, comment dire, une échelle régionale. Si vous êtes sélectionné par le jury de professionnels qui sélectionnera 10 à 12 équipes, donc sur des critères de motivation et d'inventivité, eh bien, de janvier à avril, entre début janvier et début avril très précisément, vous aurez donc l'occasion d'être, comment dire, encadré par un journaliste tuteur qui vous aidera à réaliser ce fameux reportage pour vous essayer un petit peu au monde du journalisme, ce qui peut être assez intéressant puisque c'est un métier qui a besoin de 109. Voilà, voilà. Bon, bah sur ces entrefaits, je propose de partir en musique le temps que je récupère mon souffle. On s'écoute Junior avec The Real Pop is Big Poppa sur le mix des cultures.
What's up? Life is like a dance, whoa. Or an instrumental, I should rap it till the lightning of God hit my head, yo. Over the rainbows, the black and white. I wonder where is the color when I'm gonna touch the light. That's why we're going to get high tonight. The scared to fly. If you look under the shit, nigga, pass the mic. Or pass the height. I'm gonna smoke it till I'm dead, nigga. It's screaming better than you, better than Superman. Nigga, I'm super bad. I'm super angry, super hungry. I'm hiding from the sunlight into my poetry. Eating cannelloni, cooked by action, runs and lino. Called the Nero, cause we're about to break the casino. Hey Bambino, we want the vida loca. Alexander Sosa, I fuck the angel on my shoulder. I'm a bartender, I'm smoking weed a different color. Fuck Francois, the real pop is Big Pop.
When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell.
I'm a bartender, I'm smoking weed a different color. Fuck Francois, the real pop is Big Pop.
When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell.
I'm a bartender, I'm smoking weed a different color. Fuck Francois, the real pop is Big Pop. I know how it feels to wake up fucked up. Pocket broke his hand, another week to sell. Another verse to yell, another story to tell. I want an empire like Stringer Bell. This is how we do, sipping my label. Smoking weed on bamboo like schoolboy Q. Another bite, another night, another blunt with my crew. You passing up up, this is how we flew. We fly, we motherfucking day, both planet Earth. I'm so tired to have my hands in fucking dirt. I think I've been 18 years, I'm ready to die. That I'm getting high on my own supply. But fuck that shit, nigga, sack that dick. The word I pick, the beat I kick. My microphone check, my microphone checker. Give me the liquor, I become a super nigga. I can change the weather, I have superpowers. It's a serial killer, I kill all these fake rappers. I'm a bartender, I'm smoking with a different color. Fuck Francois, the real pope is Big Pope.
When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell.
I'm a bartender, I'm smoking with a different color. Fuck Francois, the real pope is Big Pope.
When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell.
I'm a bartender, I'm smoking with a different color. Fuck Francois, the real pope is Big Pope. The real pope is Big Pope. The real pope is Big Pope. Big Pope. Big Pope. Fuck Francois, the real pope is Big Pope. My nigga,
Le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif, 99.1 et 102.4.
On salue bien sûr le pape François qui en prend plein sa tronche pour pas un rond, mais bon, c'est comme ça, c'est Noël. Un autre qui est extrêmement énervé, le petit dragon est en colère ce soir. Ousmane, tu as des choses à nous dire?
Effectivement, effectivement. Donc voilà, je voulais parler de quoi? Je parlais de réguler, c'est toujours mieux que de casser. Donc voilà. Et le 8 avril, vous vous souvenez tous, monsieur Castaner donc, a visité les Hauts-de-Rouen. Et où est-ce qu'il a visité? Il a visité seulement le commissariat. Les Hauts-de-Rouen, il y a aussi les associations donc, qui travaillent jour et nuit pour créer de la cohésion et aussi de la citoyenneté. Et après sa visite, qu'est-ce qu'il a proposé? Donc, il a proposé de rajouter 36 policiers, dont 20 affectés sur les Hauts-de-Rouen. Et depuis ça, donc les 20 policiers, donc voilà, et la police proposait des policiers pour les habitants des Hauts-de-Rouen. Je ne pense pas que c'est ça qui va régler le problème qu'il y a. Pourquoi? Parce que la police n'est pas la solution aux problèmes sociaux qu'il y a sur les Hauts-de-Rouen. Pourquoi je vous parle de ça? Depuis sa visite, M. Castaner, la police lutte contre les mécaniques clandestins. Depuis le mois de juillet, donc voilà, les policiers ont intervenu 3 fois pour mettre fin à la mécanique au noir. Ici, je voudrais dire au ministre de l'Intérieur, réguler, c'est toujours mieux que de casser. Pourquoi ? Sur le Haut-de-Rouen, les associations le savent, il n'y a rien pour occuper les jeunes, ni d'MDC, par exemple, pour les jeunes qui sont nés ici. Mais le mécanique au noir n'est pas bien, mais elle est mieux que l'inaction. Pourquoi ? Les gens qui font de la mécanique, il faut les regarder bien et savoir qui ils sont. Depuis quelques temps, depuis, je peux dire, 2 ans, voire même plus, les Hauts-de-Rouen, il y a une nouvelle population qui sont les migrants qui viennent d'arriver. Et ces migrants, la plupart du temps, ils sont surqualifiés et ils sont inactifs parce qu'ils attendent les papiers. Et ces mécaniques au noir, c'est aussi ces lieux qui leur permettent de sortir de la solitude. C'est aussi ces lieux qui créent des liens avec les habitants. Donc, les casser, c'est les faire retourner dans leurs appartements, dans l'isolation. Au lieu de casser ces lieux, je pense qu'il peut proposer des formes de régulation. Ça existe partout. Il y a des garages solidaires où on propose aux gens qui n'ont pas les moyens de venir réparer leur voiture. Ça permet de contrôler les gens qui viennent. Ça permet aussi de garder ce tissu de lien qui se fait à travers ces ateliers. Donc, mon coup de gueule, c'était par rapport à ça. Monsieur Castaner, donc réguler, c'est toujours mieux parce que ici, réguler, donc ça va garder la solidarité que ces associations se battent jour et nuit pour créer ici. Réguler ces garages, ça va contenir, contribuer au projet de la citoyenneté que toutes ces associations, dont la radio HDR fait partie, travaillent jour et nuit pour créer ici sur les Hauts-de-Rouen. Donc voilà, réguler, c'est toujours mieux que de casser. C'était ma chronique.
Et en fait, là, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a des gens qui travaillent comme mécaniciens un peu au noir sur les Hauts-de-Rouen, qui aident, ce faisant, des habitants qui n'ont pas forcément les moyens d'aller chercher chez Midas ou il faut peut-être que je cite plusieurs marques, je ne sais pas trop comment ça se passe. Midas, Peuvert, je ne sais pas, voilà, Noroto. Voilà. Okay. Donc voilà, donc des gens qui vont chez des mécaniciens clandestins pour faire réparer leur voiture. Là, du coup, parce que là, il y a eu un coup de police un petit peu récemment, là, si je ne me trompe pas, qui a mis fin à certaines activités.
Effectivement. Donc ça s'est passé il y a la semaine dernière, fin de semaine dernière, où les policiers étaient venus de 7h du matin jusqu'à 11h. Donc, ils ont droit d'enlever les voitures qui sont des épaves. Ce n'est pas ça la question. C'est au lieu de les renvoyer, ces gens, dans leur appartement, dans leur inaction et dans l'isolation, on peut aussi faire en sorte que ces choses soient contrôlées en créant des associations de mécaniciens, où il y aura un mécanicien agréé qui va contrôler le travail qui est réalisé sur ces lieux, où il y aura des responsables qui pourront contrôler où est-ce qu'on peut déverser l'huile. Je pense que c'est toutes ces choses-là qu'on interdit, tout ça. Donc, on aura la garantie de la certification du travail réalisé. Et aussi, eh ben, ça crée des emplois parce que trouver un emploi maintenant, ce n'est pas facile. Mais ces gens qui viennent, ils viennent avec un savoir-faire. Donc ils l'utilisent comme ils peuvent pour se mettre dans le système. Donc, en attendant les papiers, donc ça peut durer 1 an, 2 ans. Donc, tu n'es pas actif. Tu restes bloqué chez toi et tout seul avec tes ennuis, tes réflexions. Je pense que descendre, rencontrer les habitants, descendre, rencontrer d'autres gens et s'entraider autour du bruit de clés, et ça aère la tête. Je pense que ça favorise notre humanité à nous tous. Donc, je pense que c'est une réflexion qui mérite quand même d'autant plus que ça existe ailleurs, pas loin, à Sotteville, ça existe.
Donc là, on a des gens compétents qui, du coup, se retrouvent sans métier à attendre chez eux une éventuelle solution. On a des gens qui ont des problèmes de voiture qui peuvent peut-être pas se les faire réparer. Et tu penses que, du coup, bah, on aurait pu réguler, faire quelque chose, canaliser ces énergies pour le bien commun plutôt que de juste taper du poing sur la table. À ton avis, pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a une volonté là récemment de bloquer ces mécaniciens, ou est-ce que c'est juste le hasard qui a fait que c'est arrivé comme ça?
Bah, je pense seulement dire que ici c'est des territoires de reconquête et puis on va envoyer plus de flics. Si seulement les flics étaient la solution à tous les problèmes de la France, on le saurait. Ça fait 1 an que les gilets jaunes manifestent et c'est pas en envoyant tous les jours plus de flics que les gens ils sont restés chez eux. Et les Hauts-de-Rouen n'échappent pas à cette règle. Et plus de police, c'est bien, mais plus de social. Je pense que les flics, ils ne sont pas là pour écouter les gens. Ils ne sont pas là pour aider à remplir les gens leur dossier. Et c'est cela, les vrais problèmes. Et on parle de citoyenneté, et ce n'est pas la police qui va venir nous apprendre la citoyenneté. Donc, on a besoin d'autres choses que de nous envoyer plus de flics, parce qu'on essaie tout le temps de faire passer les problèmes de ce territoire avec des problèmes de confrontation, des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, c'est une utilité, tout le monde le sait. Mais ils ne sont pas utiles partout, sinon ça serait.
Bon, on verra en attendant jeudi qui de la concertation ou des gomme-cognes aura raison sur ce qui va se passer. En attendant, vous vouliez dire quelque chose, cher invité?
Oui, je vais défendre au niveau des migrations de travail sans pape. En fait, moi, je me dis, pour travailler sans pape, en fait, c'est mieux que tu sors, tu cherches quelque chose à faire, il faut mieux que tu restes à la maison. Imagine quand tu es sans papier, tu ne fais rien. Je pense tout ça là, c'est mieux qu'aller voler quelqu'un, c'est mieux qu'aller vendre la drogue ou bien vendre quelque chose qui n'est pas sûr. Je pense si vous voyez que les gens sont là, pour chercher leur truc, tout ça là c'est pour éviter. Parce que quand on ne travaille pas, tu es sans pape, tu vas voyager sur le bus, tu vas aller sur le bus, tu n'as pas carte bus, on t'attrape, on te dit quoi? Oui, on te dit à la galère. Je pense mieux que LS, nous faisons le travail, on participe sur les caisses françaises. Ce n'est pas obligatoirement des papiers. On sait papier, ce n'est pas facile à trouver. Mais laissez les gens va débrouiller. Je pense que c'est ça qui est plus facile. On paye votre courant, on paye votre truc, mais vous laissez les gens dans l'appart. Ils ne travaillent pas, ils ne font rien. Vous voyez, imaginez ça comment? Alors que vous sortez dans le bus, on marche partout dans le bus. Donc, si on t'attrape comme ça, tu vas dire quoi? Tu n'as pas de travail, tu n'as pas de truc. Et tu es en train de chercher de là où tu vas te débrouiller. On t'attrape là-bas aussi. Où on va?
Pas de solution.
Juste sur la question là, que tu as posée à Ousmane, sur est-ce que c'est vraiment une volonté? Je pense que c'est une volonté du gouvernement. Le Front National a exprimé ses choix de politique anti-migration. Et le gouvernement là, les a mis en place et continue de les mettre en place. En empêchant l'accueil, en créant un état sécuritaire et un climat de peur qui est en plus alimenté par les médias généralistes, les médias publics qui alimentent cette peur des migrations, etc., qui donnent les billes au gouvernement pour créer cette politique anti-migration.
Monsieur.
Oui, en fait, l'immigration, y en a plein de gens qui sont là, qui ont leur métier. Ils ont tout leur tête, mais ils n'ont pas de capacité, ils n'ont pas d'autorisation d'aller faire quelque chose. Je pense que cette situation-là, c'est mieux que regarder, au lieu que laisser les jeunesses, va rester comme ça à la maison. Moi, c'est ça que je vois dans la solution, parce que quand on travaille, vous occupez notre papier à part. Après, nous, on contribue dans votre caisse. Si on contribue, ça ne va pas caisse de Guinée, ça ne va pas caisse de Sénégalais, ça dépose sur les caisses des Français.
Oui, donc finalement, on favorise l'inaction plutôt que les initiatives. En l'occurrence, c'est une initiative qui était plutôt louable. Bon, bah écoutez, on s'écoute un peu de musique et puis on repasse à l'interview de nos invités. Ce sera donc Captain Corias et Sector Naloud avec On est là sur le mix des cultures.
Tête
Le Blabla Mix, 99.1 et 102.4 FM.
C'est ça, le Blabla Mix de la culture, de la déconnade, aussi parfois des coups de gueule. Et si vous-même, vous avez envie de dire quelque chose, vous avez envie de parler, vous avez envie que votre voix soit entendue, bah venez nous voir à Radio HDR, on a du café et on a Ousmane Diop, donc venez nous voir, parlez-nous de vos soucis. Et puis voilà, donc là, on va passer à un sujet sans doute plus léger, plus trivial, mais néanmoins intéressant, puisque nous passons donc à nouveau à M. Kevin Emery et M. Ibrahim Diallo, dont cette fois, j'ai bien retenu les noms. Rebonsoir, messieurs. Donc, parlons cette fois de la Yule Company. Bon, on vous connaît bien, mais on va quand même vous poser la question traditionnelle. Qu'est-ce que c'est que la Yule Company?
Alors, on est une compagnie de théâtre, contes et marionnettes qui est dirigée par Ulrich Ntoyo. Et on est installé depuis un an sur le quartier Gramont à Rouen, où on monte des projets avec les habitants. Donc, on a des projets d'action culturelle, on a nos spectacles en création, etc. Et voilà, c'est un peu une grande famille qui s'étoffe au fil des rencontres, des envies et surtout de ce qu'on a envie de créer avec les habitants.
Oui, on salue M. Ntoyo, qu'on a eu le plaisir de recevoir, je crois, il y a quelques mois, pour parler d'un spectacle. Alors bon, la mémoire me quitte, je vois beaucoup d'artistes. Néanmoins, ce soir, c'est à vous que je m'adresse, messieurs. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment à la Yule Company, messieurs? Qu'est-ce qu'il y a sous le coude?
Alors, on a pas mal de trucs. En fait, là, on a démarré cette année un projet qui s'appelle Monstre. L'an dernier, on a travaillé sur les rêves des gens. Donc là, on a voulu aller vers plutôt les monstres. Et donc, on a des petites formes de création. Là, en décembre, on a la troisième forme qui est sur la fabrique du théâtre. Donc, on veut montrer le théâtre en fabrication. Et on travaille sur les trois sœurs de Tchekhov qui parlent de plein de sujets de société. Et les trois comédiennes qui portent ça, donc qui est dirigée par Ulrich Ntoyo, sont Mariette Jules, Massa Zahar et Andrea Nistor. Et en fait, elles ont des nationalités et des langues différentes. Donc, elles parlent français, arabe, roumain et allemand. Et donc, ce spectacle sera aussi multilingue parce que la question des langues dans le quartier Gramont, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce qu'on se disant que parfois, les problèmes de communication ou de compréhension de l'autre font que ça crée du rejet, ça crée de la distance, voire de la violence à plus long terme et que créer des espaces où les langues puissent communiquer entre elles, c'est intéressant pour nous.
Vous nous parlez de la fabrique du théâtre, ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Qu'est-ce que vous entendez par là? Comment est-ce que le théâtre se crée?
C'est ça, c'est comment le théâtre se crée. Donc en fait, on est du 16 au 21 décembre au centre socioculturel Simone Veil dans le quartier Gramont. Et donc tous les après-midi, de 14h à 17h, les portes sont ouvertes pour venir pratiquer avec les comédiennes, avec Ulrich. Donc, on a des ateliers, on s'entraîne, tout ça. Et on fait une restitution publique le 21 à 17h au centre Simone Veil.
D'accord. Donc là, en l'occurrence, vous nous avez dit, vous basez sur la pièce Les Trois Sœurs de Anton Tchekhov, c'est ça?
C'est ça.
Ok. Pourquoi ce choix particulier? Anton Tchekhov, c'est comme un peu spécial, ouais. Non?
En fait, ça vient des filles. C'est elles qui ont décidé. C'est elles qui ont ramené ce projet dans la Yule. En fait, voilà, ça part vraiment que de rencontres ou de volonté humaine. Et elles ont un attrait toutes les trois pour cette pièce. Elles ont demandé à Ulrich s'ils pouvaient les diriger dans ça. Et donc là, elles sont en travail. Là, et donc en décembre, ce sera un travail sur l'acte 1. Et le but, c'est de se faire un peu une série tout au long de l'année, sur les cinq actes, et à chaque fois se faire un truc sur le nouvel acte et peut-être après de faire tout un long truc.
D'accord, bon, nous avons parlé de dames, parlons maintenant de choses moins douces et délicates. Désolé, chers amis féministes, j'étais perdu, j'étais obligé de tomber dans le stéréotype. Parlons de monstres, messieurs, pourquoi les monstres?
En fait, la question des monstres, elle est venue sur l'idée du cauchemar. En fait, après avoir voulu travailler les rêves, on s'est dit, on va travailler sur les cauchemars, ce qui nous fait peur, ce qui machin. Donc, on veut prendre des problématiques et essayer de voir comment les inverser. Et donc, là, tu vois, la question de la violence, qui peut arriver par les problèmes de communication de langue, comment en fait inverser ça et prendre l'aspect inverse. Avec nous, ce que nous, on est, qui est le domaine artistique, et en fait, ça nous amène à une création qui mêle amateurs et professionnels à partir de l'an prochain sur cette question-là, sur cette question des monstres, des cauchemars.
Donc là, vous en êtes encore à l'étape de création?
Ouais, en fait, il y a trois petits spectacles qui sont créés. On a déjà fait deux volets. Un Fais-moi signe, qui est un spectacle qui mêle langue des signes française et français, qu'on a fait en août et en septembre. Là, en octobre, on a fait un spectacle « Je suis plus vieille que le monde », qui est un spectacle de chant, de danse et de conte sur les questions de l'environnement et de ce qu'on est en train de faire à la planète. Et si on continue pas, enfin, si on continue ainsi, bah, voilà, on va vers la destruction des espèces, voire de notre espèce. Et donc, les trois sœurs, enfin, la fabrique du théâtre. Et puis, on finit sur une création qui mêle amateurs et professionnels.
D'accord, mais pourquoi mêler amateurs et professionnels? Surtout, est-ce que ça apporte quelque chose d'avoir des gens qui ne sont pas forcément du sérail pour venir apporter leur pierre à l'édifice?
Parce que pour nous, dans la Yule, on veut permettre à chacune, à chacun d'avoir son mode d'expression et de pouvoir exprimer ce dont il a envie. Et donc, le fait de pouvoir bosser aussi avec des professionnels, ça permet aux amateurs de pouvoir se libérer et d'être ensemble avec les professionnels et à se dépasser, à aller encore plus loin.
D'accord. Bon, nous sommes le 3 décembre, messieurs, ça ne vous a pas échappé. Tout est à la sauce Noël en ce moment, les téléfilms à la télé, les décors dans la rue, tout, même votre blabla mix. Bientôt, vous verrez, Ousmane viendra avec un petit bonnet lumineux sur la tête.
Effectivement, elle est en commande et je demande à la dame et aux dames des tricots d'accélérer.
Ah, très bien, très bien. Voilà, bah, on l'aura finalement, notre tricot Radio HDR. Est-ce que vous-même, vous faites quelque chose pour Noël?
En fait, nous, on fait du conte. Donc, le conte, ça se marie très, très bien avec Noël. Donc là, on a un format qui est en trio avec Sophie Lefay, qui est une chanteuse. On a Ulrich Shentoyo, qui est au conte, et Madou Konaté, qui est un percussionniste musicien de kora et de batterie et de d'autres percus. Donc, on a ce trio-là qui se crée. Et le 11 décembre, on fait une animation dans le quartier Saint-Gervais autour de la boîte à livres. Et en fait, voilà, on va faire un truc devant l'église Saint-Gervais pour le Noël du quartier. Puis ensuite, on fera un truc, ce spectacle-là à Grand-Queville pour les enfants, de descente de loisirs de Grand-Queville. Puis après, on passe à Grand-Couronne et on revient à Rouen en janvier.
Parlons de conte, messieurs. Quelle est la spécificité du conte? Comment est-ce qu'on conte? Est-ce qu'on se met sur une scène et puis on lit un livre de Charles Perrault? Comment ça se passe?
Le principe du conte, justement, c'est de prendre en compte l'instant immédiat, donc le moment dans lequel on vit, l'époque dans laquelle on vit. C'est pour ça que les contes sont aussi tout le temps réactualisés et correspondent aussi à la société dans laquelle on est. Et ça prend en compte le public qui est en face de nous et les interactions du public. Donc si il y a des réactions, s'il se passe un truc dans le public, le conteur s'en saisit et joue avec ça. Alors que quand on est dans un spectacle de théâtre, c'est figé et donc tu ne peux pas avoir cette interaction. Dans le conte, tu peux vraiment interagir et évoluer.
Vous nous parliez tout à l'heure, si je ne m'abuse, de musique également. Il y a des musiciens. Est-ce que vous accompagnez vos contes de musique?
Oui. Ben là, tu vois, dans Conte émerveillé, il y a Sophie Lefay et Madou Konaté. Après, sur la musique, on fait aussi de l'accompagnement d'artistes. Là, notamment, il vient de il y a 2 semaines, dans le cadre du festival Chandelle, au Trianon, il y avait l'avant-première du projet Contrepoint de Talisker, qui est un projet entre l'Iran, New York et Paris, et donc qui mêle musique perse, musique électro et musique classique, rap avec... qui ont été enregistrés aux États-Unis et en fait voilà, il y a eu l'avant-première et un album en sortie, en création, sur un spectacle sur l'histoire de ce voyage, de cette histoire d'amour entre ces trois pays qu'a eu Talisker.
Là, vous nous offrez un véritable mix des cultures, ce qui m'amène à une question qui me taraude. Tout à l'heure, je vous parlais d'Emmaüs, le folklore européen, tout ça. Je vous ai parlé également de Charles Perrault. Le conte, finalement, c'est quelque chose qui est extrêmement inscrit dans un folklore européen, ou est-ce que c'est quelque chose de bien plus large que ça?
Alors, c'est bien plus large. Et c'est pour ça que je peux annoncer. on organise depuis 5 ans maintenant un festival de contes chez les habitants. Et en fait, ce festival, il est né il y a 5 ans. Quand Ulrich est rentré du Congo, il venait d'y avoir les attentats de Paris. Et lui, dans le métro, en tant que black, il a ressenti le regard différent des gens, la peur des gens. Et donc, on s'est dit, nous, en tant que compagnie artistique, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer des espaces de rencontre? Parce que nos publics sont aussi des origines différentes. On a des conteurs qui ont des origines différentes. Donc, on crée ces espaces avec les gens, apportent un plat à partager. Après, donc dans des maisons, en se disant que chez les gens, bah, y a pas le fait de pousser la porte d'un équipement culturel où parfois ça peut être que ben, c'est pas pour moi d'entrer dans ce lieu-là. Là, on est dans le côté intime des personnes. Et donc, on fait là dans 10 maisons sur l'agglomération, plus une soirée de clôture au centre Simone Veil. Et depuis cette année, on a installé un chapiteau dans le parc Gramont où on fait venir les écoles toute la journée. Et le soir, on fait une ouverture voilà, pour les habitants du quartier.
Monsieur Emery, Monsieur Diallo, avant de parler plus en avant de ce fameux festival du conte, parce que le conte, finalement, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup et qui reste très central, je trouve, dans le monde du théâtre, je ne sais même pas si on peut dire du théâtre, de la littérature, dans le monde culturel français. Eh bien, écoutons un autre morceau majeur du monde culturel français, j'ai nommé La Musique, avec Seal of Quality et Switch sur le mix des cultures. Nothing is ever as good as I meant it to be, and it gets me all down. Could it be any worse? Nothing is ever as good as I meant it to be, and it gets me all down. Could it be any worse? Nothing is ever as good as I meant it to be, and it gets me all down.
À 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
17h45 dans 2 secondes, chers auditeurs, nous sommes toujours avec Monsieur Emery et Monsieur Diallo, donc, avec qui nous parlons du festival du conte chez l'habitant. Chez l'habitant, vous allez chez des gens pour réciter des contes?
Oui, et en fait, là déjà, cette année, on est déjà complet pour l'édition du mois de mars, et en fait, on demande aux gens d'ouvrir leur maison en disant bah, au minimum, c'est 20 personnes. Et en fait, il se passe, chacun choisit d'inviter le public qu'il veut et d'ouvrir sur nous en termes de communication plus générale. L'exemple que j'aime bien citer, il y a une dame à Mont-Saint-Aignan, il y a 3 ans, qui a choisi d'inviter tous ses voisins d'immeuble en disant, bah, en fait, on se croise dans l'immeuble et tout, mais bah, jamais on se parle. Et en fait, elle a organisé une soirée chez elle avec les voisins de l'immeuble qui ont bien voulu venir. Et donc, ça crée vraiment un truc aussi dans la rencontre de son voisin, qu'on fait juste que croiser dans l'escalier, quoi.
Comment ça se passe? Mettons que chez moi, j'ai un grand loft de 45 mètres carrés. J'ai envie d'organiser une soirée conte. Est-ce que je vous contacte? Je vous dis, les gars, venez réciter des contes chez moi. J'invite mes voisins. Comment ça se passe?
Ouais, bah ça se passe en fait comme tu veux. non, mais en fait, le truc, c'est qu'on s'adapte aux gens, tu vois. On ne veut pas mettre en insécurité ou mettre en stress les gens qui vont accueillir chez eux. C'est vraiment avec... de manière individuelle qu'on construit le truc, et c'est eux qui nous disent, ben voilà, en fait, moi, je pense qu'avec ma famille, mes voisins ou quoi, j'ai 10 personnes, donc je peux vous laisser 10 personnes en plus, vous, de public de la Youle, plus généraux, pour venir dans la soirée chez moi. Et donc ça crée, voilà, cet espace de rencontre avec des gens qui ne se seraient pas forcément rencontrés dans d'autres espaces sociétaux.
Est-ce que ça surprend les gens? Déjà, j'imagine que oui. Et est-ce que surtout, ça crée des vocations? Est-ce que vous créez des jeunes conteurs comme ça?
Eh ben ouais. en fait, en plus, là, on accompagne... Enfin, la Youl, on a aussi une démarche... on est aussi dans la transmission des choses et dans l'accompagnement. Donc là, on est dans l'accompagnement de trois personnes qui sont en formation et qu'on accompagne aussi. Enfin, là, un qu'on va accompagner... pour accéder, pour se professionnaliser et avoir le statut d'intermittent. Puis ensuite, là, on a déjà la personne qu'on va accompagner sur l'année d'après et qui commence à faire des stages, des ateliers avec nous.
Est-ce que c'est un exercice très différent de faire du théâtre, par exemple, de faire du check-off ou est-ce que, et de faire du conte, pardon, je ne sais pas si ma question était très claire, je me suis perdu en cours de route. Est-ce que c'est un exercice différent de faire du théâtre très classique ou de faire du conte?
En fait, ce n'est pas la même formation. Déjà, et nous, les conteurs qu'on prend, qui sont programmés, que le Riche programme sur le festival, qu'il a déjà vu avant. On ne prend pas des conteurs qui ont des spectacles, on ne leur demande pas un spectacle. On prend des gens qui viennent partager une parole. Et en fait, c'est la question de la parole qui est importante. Donc, les gens viennent partager une parole qui vient. Donc là, par exemple, voilà, là, on a les conteurs et les conteuses ont des cultures, des nationalités différentes et viennent partager une parole pendant cette soirée. Et en fait, la parole... et ton interaction avec le public, alors que quand tu es au théâtre, tu vois, tu as le de A à Z, c'est déjà tout écrit. Le conte, en fait, il peut y avoir plein de variations et ta parole peut évoluer en fonction de qui tu as en face de toi. Il y a deux ans, il y a un an, il y a une conteuse qui s'est retrouvée dans un appart où c'était que des trentenaires. Et en fait, on ne savait pas ça, et donc il n'y avait pas d'enfants et tout. Et donc la conteuse est partie, a fait toute la soirée des contes pseudo-érotiques, quoi. Et ça a très, très bien fonctionné. Donc, parfois, y a des enfants, donc il va y avoir des spectacles qui seront plus familiaux. D'autres fois, ce sera des paroles plus... ouais, c'est selon les gens qui sont en face, quoi.
Bon, du coup, tu auras beaucoup de demandes pour les trentenaires.
Super, les petites soirées semi-érotiques et tricot chez Monsieur Ousmane, bien sûr. Ne ratez pas ça. Donc, du coup, là, vous dites quelque chose quand même qui nous interpelle. Le conte, on imagine ça plutôt pour enfants, comme on peut imaginer parfois la BD. Fred Sandon nous rattrape souvent sur cette erreur-là. Le conte, c'est pas que pour les enfants. Il y a des contes de tous les types.
Ah oui, bien au contraire. Enfin, le conte, c'est à tout âge. Et enfin, le conte, c'est dans la grande famille des arts de la parole, des arts de l'oralité, qui sont des pratiques encore... qui existent beaucoup encore sur le continent africain, qui sont de la transmission. Et en fait, avec des cultures où la transmission se fait par l'oralité, l'oralisation, et qui ne sont pas forcément dans la fixation de l'écrit. Et donc, c'est encore... ce qu'on veut défendre dans ce festival, c'est retourner un petit peu à cette vision d'antan où tu avais le grand-père, la grand-mère qui racontaient aux petits-enfants et qui transmettaient tout un truc. Et il y a Amadou Mpateba qui dit que quand en Afrique un vieillard meurt, c'est comme si une bibliothèque brûlait. Et je trouve que cette image, elle correspond un peu à ce qu'on veut défendre sur ça.
Je suis effectivement d'accord. En fait, le conte ici, un peu en Occident, elle a quelque chose de ringard ou de quelque chose de réservé. Le côté réservé, c'est partagé quasiment partout. Mais le conte en Afrique, c'est l'école de l'enseignement. C'est ce qu'Amadou Mpateba disait. Donc, les gens n'ouvraient pas la bouche pour raconter n'importe quoi. Et il y a toujours quelque chose à en tirer. Et donc, maintenant, je pense que la Youl, vous utilisez ces mêmes ressorts pour aller chez les gens, pour non seulement les divertir et aussi en tirer un enseignement de vie.
Ouais, c'est ça, en fait. Dans le conte, il y a toujours... Enfin, pas une morale, mais une... le conte et les conteurs qui sont programmés sont aussi engagés dans des défenses de valeurs humaines qui sont aussi les nôtres à la Youl. Donc les contes en général, quand tu écoutes un conte, il y a toujours une leçon à en tirer. Il y a toujours une forme d'apprentissage qui arrive derrière. C'est pas juste une parole pour une parole. C'est une parole qui peut-être sème des petites graines ici ou là et qui germeront ou pas. Mais en tout cas, c'est des graines qui sont semées.
17h51 et c'est déjà l'heure de la question à 100 points, chers auditeurs et chers invités. La question à 100 points du soir, c'est tous ces contes, finalement, ces contes populaires qui se transmettaient de bouche à oreille pendant toute l'histoire, au moins de l'Europe, et qui aujourd'hui sont inscrits définitivement sur le papier immodifiable, sont-ils toujours des contes?
Bah oui. En fait, parce qu'il existe énormément de versions. enfin un même conte selon le pays et tout peut avoir plein de versions différentes, que ce soit sur sa fin ou même sur la manière dont il est écrit. Et il y a beaucoup de projets de captation, enfin de contes, pour ben, essayer de voir. En fait, on se rend compte que les contes, ça circule un petit peu à travers le monde, et que ben, des cultures qui ne sont pas du tout proches ont des contes qui sont très ressemblants, et qu'en fait, ben, il y a des chemins qui sont pris. Même si c'est posé à l'écrit, ce n'est pas pour autant qu'il est figé, parce qu'un conte à l'écrit, c'est aussi ben, comment le conte va, le conteur va s'en imprégner, se l'approprier, et en faire que ça devienne sa parole à lui.
Finalement, les contes, on a tous déjà été confrontés aux contes, mais très peu d'entre nous deviennent conteurs. Comment vous-même vous en êtes venu à revenir aux contes quelque part, à devenir des conteurs des temps modernes ?
Alors moi, je ne suis pas conteur, mais...
J'entends vous au sens la Yule Company en général, bien sûr.
Après, Ulrich vient du Congo Brazza, et donc il est de cette culture-là, des arts de la parole. Et au village, et l'apprentissage se passait comme ça, par les arts de la parole et du langage. Et ce côté transmission, en fait, est en lui, et sa formation démarre du conte. Donc, on en revient là, mais je pense que c'est assez cyclique dans le monde. Et que parfois, là, il faut en revenir un petit peu aux sources, et parfois ralentir, sortir un petit peu de la consommation, de la croissance et tout, ralentir. Se poser autour d'un conte, autour d'un bon repas, parce que la nourriture est aussi très importante pendant le festival, parce que c'est aussi des rencontres de culture de ouf, comme la musique, comme le conte.
Bon, posons-nous autour d'un petit morceau de musique avant de conclure sur ce que fait la Yule Company, où est-ce que vous pourrez la retrouver dans les prochains temps. Partons sur un petit classique, on se fait un petit plaisir cinématographique même, puisqu'on va s'écouter Johnny B. Goode de Chuck Berry sur le mix des cultures. Yeah.
Made of earth and wood. Well, he's a country boy named Johnny B. Goode.
Un Chuck Berry définitivement très en forme le jour de cet enregistrement. Que promis, on s'écoutera en entier un de ces quatre, chers auditeurs. Mais enfin, il faut bien qu'on laisse un peu de temps pour nos invités qui sont également fort intéressants, dans un style un peu différent certes, mais fort en forme ce soir et ça fait plaisir à voir. Revenons-en donc à la Yule Company, messieurs. Comment est-ce qu'on peut vous retrouver? Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Est-ce que vous avez un site internet? Et puis rappelez-nous aussi ce que vous faites prochainement.
Alors, oui, on a un site internet, c'est tout simplement yulecompany.fr. On a aussi une page Facebook, une page Twitter. Là, on vient de créer une page Instagram. On essaie de commencer à se renouveler un petit peu dans nos supports de communication. On a un numéro de téléphone, c'est 07 69 13 20 29. Si vous avez envie de nous appeler, si vous passez dans le quartier et que vous voulez boire un café... Tu vois, Ousmane, nous aussi, on boit beaucoup de café.
Ah bah. je suis le bouc émissaire.
Et donc, bah, là, à venir prochainement, donc c'est du 16 au 21 décembre, un travail sur la fabrique du théâtre au Centre socioculturel Simone Veil, et donc de 14h à 17h, et une restitution le 21, un travail sur les trois sortes de Tchekhov avec trois comédiennes qui parlent des langues différentes.
À ne pas louper donc, chers habitants d'Eau, chers habitants de Grammont également, et puis même si vous êtes chaud, que vous avez une voiture, chers habitants de Évreux et du sud de l'Eure, bien sûr. Bon, bah 17h58, voilà l'heure de dire au revoir, d'abord à Monsieur Diop, le petit dragon en colère ce soir, Monsieur Diop. Merci. À bientôt, on se retrouve jeudi en pleine forme, peut-être pas jeudi, mouvements sociaux, chers auditeurs, on ne sait pas encore, on stat ici. En tout cas, vendredi, vous le retrouverez, Ousmane, sauf son drame. On salue bien sûr notre ami Youssef, qui est le premier stagiaire, je crois, dont je retiens le nom sans jamais me tromper, Youssef.
Au revoir.
Petit vénard. Et on salue donc bien sûr nos amis Monsieur Emery et Monsieur Diallo de la Yule Company, qu'on aura plaisir à recevoir très bientôt, j'espère. En attendant, à très vite. Salut à tous, chers auditeurs.
Merci.
Et puis, pour ce qui me concerne, à lundi prochain. Salut à tous.